Aujourd'hui, la masterclass de Maëlys de Kerangal avec Caroline Brouet.
Maëlys de Kerangal, vous êtes née un 16 juin 1967. Vous êtes née à Toulon et vous avez grandi au Havre. Vous avez fait des études à Paris de sciences humaines, philosophie, histoire, ethnologie et anthropologie par la suite. Et puis vous avez été éditrice de guide de voyage puis de documentaire pour la jeunesse. Vous avez édité des livres pour la jeunesse chez Gallimard Jeunesse d'abord et puis vous avez créé les éditions du Baron Perché en 2004. Vous êtes restée là jusqu'en 2008. On compte sous votre plume à ce jour une dizaine de livres. On vous connaît essentiellement pour trois livres. C'est-à-dire le grand public vous connaît pour trois livres. Corniche Kennedy en 2008, qui a donc été adapté cette année au cinéma par Dominique Cabrera. Naissance d'un pont en 2010, qui a reçu le prix Médicis, le prix Franz Sessel et qui est en cours d'adaptation au cinéma par Julie Gavras. Et puis bien sûr, Réparer les vivants, c'était en 2014 déjà, ça fait trois ans, qui a obtenu de très nombreux prix, dont le premier roman des étudiants France Culture Télérama, le Grand Prix RTL Lire. Je vais peut-être pas tous les citer, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il a été donc adapté au cinéma par Catel qui les verrait, au théâtre par Emmanuel Noblet, puis par Sylvain Maurice. Mais avant cela, il y en a eu d'autres, des livres, des romans. Il y avait eu Je marche sous un ciel de traîne, c'était en 2000, c'était le premier. La vie voyageuse en 2003, Ni fleur ni couronne en 2006, c'était un recueil de nouvelles. Dans les rapides en 2007, et puis il y a eu aussi des récits, avant, après, essentiellement après, je vais citer Tangente vers l'Est en 2012, qui avait été inspiré d'un voyage en 2010 dans le Transsibérien. Vous n'étiez pas toute seule lors de ce voyage, il y a eu plusieurs écrivains, mais ce livre a obtenu le prix Landerneau. Il a d'abord donné lieu à une fiction radiophonique pour France Culture, qui ne portait pas le même titre, mais le livre s'appelle Tangente vers l'Est. Et puis il y a eu À ce stade de la nuit en 2014, et enfin Un chemin de table en 2016, qui racontait le parcours, la vie trépidante et épuisante d'un chef cuisinier. C'était pour la collection Raconter la vie au seuil. Et alors j'ai vu en préparant cet entretien que vous aviez reçu en 2014 le Grand Prix de littérature Henri Gall de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. Voilà, je pense qu'on a dit un tout petit peu de choses parmi tout ce qu'on aurait pu dire d'autre. Mais donc le premier livre, Maëlys de Kerangal, était un livre qui date de 2000. Il se trouve que vous aviez passé en 96-97 deux automnes dans le Colorado, dans une petite bourgade du Colorado aux États-Unis. Est-ce que c'est là que vous avez commencé à écrire? Est-ce que c'est ces deux automnes, ces deux séjours longs qui vous ont mis le pied à l'étrier, ou plutôt mis le doigt sur la souris, peut-être même en tenant votre stylo déjà?
Oui, oui, c'est au Colorado, dans cette espèce de bourgade, en fait, qui était un campus universitaire, pas loin, tout près de Denver. Et c'est durant ces deux automnes que j'ai écrit pour la première fois. C'était une sorte de passage à l'acte et je suis allée jusqu'au bout. J'avais jamais écrit auparavant. Parfois, j'ai le sentiment que quand je pense à cette espèce de déclenchement de l'écriture, je me demande même qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas fait ces séjours au Colorado, dans la mesure où c'était aussi un moment, une conjoncture, comme on dit, c'est-à-dire j'étais aussi extrêmement disponible de mon temps, enfin je pouvais jouir de tout mon temps, et c'est souvent une condition, et aussi d'un lieu pour le faire. On oublie peut-être parfois que écrire c'est du temps et un espace, hein, pour le faire. Au final, je suis heureuse de pas être passée à côté de ça, c'est-à-dire que je salue aussi ces deux automnes où en fait j'ai essayé de ressaisir dans un roman une vie qui avait été une vie d'éditrice de guide de voyage, alors que ça a pris une autre forme. C'est un roman avec des motifs autobiographiques assez visibles, enfin pour moi-même, peut-être pour ceux qui me connaissent davantage, notamment en termes de lieu. Et voilà, et c'est vrai que tous ces jouets-là, ce qui m'étonne, c'est que voilà, c'était assez tard tout de même, hein, j'avais 28, 30 ans à peu près. Non, mais je veux dire, j'étais pas du tout souvent les les écrivains ont parfois une espèce de précocité, en tout cas une relation très intense à l'écriture bien avant d'écrire. Moi, j'avais plutôt un rapport à l'écriture qui était tissé dans des actions professionnelles, puisque j'étais tout de même éditrice de guides de voyage, donc je recevais des textes qu'il fallait parfois discuter, questionner, réécrire. Je recevais de la documentation. Enfin, il y avait tout un agencement. Je construisais des cartes, des parcours, des choses comme ça. Je pense que, de fait, ce travail a fait quand même empreinte dans l'écriture ensuite. Et si vous voulez, je crois que je suis étonnée de la manière dont, d'une façon assez brutale et en une fois, il y a eu ce livre a été écrit, une fiction directement, c'est-à-dire un roman immédiatement, et aussi des pratiques qui après n'ont pas changé, si vous voulez. Vous voyez, il y a une espèce de naissance, on peut dire.
Comme des rituels que vous avez mis ensuite en place ?
En fait, c'est ce qui s'est passé à cette période sur ce premier livre, c'est pratique. Alors, on peut dire que ce sont des rituels. Après, ça a une connotation assez sacrée. Mais c'est vrai que la mise en route de l'écriture, la façon de, par exemple, de penser le temps, de penser les moments où l'on n'écrit pas, et puis tout simplement parfois de s'y mettre, hein, avec un espèce de petit grec comme ça, un peu se mettre à quoi. Ce sont des pratiques que moi j'ai conservées ensuite. C'est-à-dire j'ai assez peu varié de vie d'écrivain, enfin de vie d'écriture ensuite. Vous voyez, en termes de pratiques, de ce qui se passe par exemple là où j'écris actuellement.
Restons un moment sur ce moment déclencheur qu'a été le Colorado et cette expérience dans le Colorado. Vous ne saviez pas que vous alliez écrire quand vous étiez là-bas? Vous n'y alliez pas pour ça?
Non, j'y allais pas pour ça. Après, je me disais, je vais avoir du temps et si j'essayais de raconter cette histoire. En fait, quand j'ai écrit ce livre, j'avais des attendus assez modestes. Enfin, j'étais assez profil bas. Je voulais raconter une histoire et une histoire qui pourrait revisiter ou voilà cette expérience d'éditrice de guide. Et c'est un métier que j'ai vraiment adoré. Enfin, où il y avait à la fois un aspect collectif, mais aussi un aspect de découverte, d'exploration, etc. Et un rapport au lieu qui m'a énormément nourrie en fait pendant ces années. On a fait, je sais pas, peut-être 1500 pages sur la Bretagne. Enfin, vous voyez, on avait quand même on a eu le temps de découvrir certaines, voilà, c'est une certaine mémoire aussi, une certaine un tissu aussi de savoir. Et j'avais pas du tout, si vous voulez, l'idée d'écrire quelque chose qui regarderait la littérature. Vous voyez, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'était quelque chose de beaucoup plus simple. Et j'avais d'ailleurs une culture assez lambda. Je m'en rends compte aujourd'hui dans la mesure où je connais assez bien ce qui se publie aujourd'hui. Je suis assez bien ce qui s'écrit. Je repère des champs. À l'époque, pas du tout. J'étais lectrice. Et en fait, je pense que ça a été ma seule force d'avoir lu et d'avoir beaucoup lu depuis. En revanche, j'ai toujours été très lectrice.
Oui, c'est ça. Voilà. La littérature.
Et ça a été ça a été ma seule richesse au moment où j'ai commencé à écrire. Vous voyez, j'avais pas du tout auparavant tâtonné, essayé des choses que j'avais abandonnées, etc. Ça a été en une fois, mais j'étais quand même lestée d'une vie de lectrice assez dense, assez classique, mais quand même assez dense.
Vous dites même que le carburant, c'est la littérature. Pour vous, c'est vos lectures. Parmi vos lectures, vous citez souvent Claude Simon.
Oui.
Y en a-t-il d'autres? Et pourquoi Claude Simon?
Claude Simon, c'est un auteur que j'ai croisé assez jeune pendant mes études, que j'ai trouvé absolument difficile, je dirais, il y avait une forme d'opacité. Je trouvais que c'était une phrase interminable où je me perdais, je ne ressentais pas de plaisir, c'était des textes qui étaient assez clos pour moi, mais que je me suis forcée à lire, pour le coup l'Acacia, et que je me suis forcée à lire pour exister dans un groupe auquel je voulais participé, et où la lecture de Claude Simon était une espèce de prérequis d'une certaine manière. Et du coup, je l'ai lu comme ça. En fait, il y a quelques années, j'ai repris cette lecture. Et là, tout s'est ouvert, tout s'est animé. J'ai ressenti une forme de facilité à entrer dans cette phrase, à en suivre les replis, les décrochements. C'est une langue qui est très belle et beaucoup moins hermétique et beaucoup moins intimidante que ce que j'avais ressenti alors. J'étais impressionnée, et pour moi c'était des textes qui étaient un peu surplombants, vous voyez, qui étaient très intimidants.
D'autres ?
La lecture peut-être qui m'a le plus marquée, qui a été aussi comme une espèce d'inauguration et une espèce d'intronisation pour moi, c'était la lecture de Zola. La lecture de ce que je pense être peut-être le premier livre un peu de littérature, le premier roman adulte, voyez, que j'ai lu au seuil de l'adolescence. Je vais avoir 12 ans, 12 ou 13 ans, c'est Zola et c'est Peau-bouille de Zola. Et c'est vrai que je pense que je les ai lus comme on accède au monde, en fait. Hein, voyez, c'est-à-dire ça me permettait d'avoir accès à des réalités qui n'étaient pas du tout dans ma vie, à un monde qui m'était totalement étranger. Et je pense que j'ai construit avec cet auteur-là un certain rapport à la littérature qui est aussi à la pensée en termes de connaissance. C'est-à-dire que la littérature est une forme d'accès à la connaissance, une puissance de connaissance, un moyen de connaître le monde et d'avoir accès à d'autres mondes que le sien. Et la lecture de Zola, ça m'a vraiment apporté ça. Beaucoup plus d'ailleurs que l'idée très sociologique sur lequel on le rabat souvent. Il y a aussi une puissance romanesque que je trouve extraordinaire. Et ça, par exemple, ça a été très formateur. Après, j'ai lu tous les livres de Fitzgerald. Alors là, vous voyez, j'avais un peu cette idée que les auteurs, quand on en aimait un, il fallait un peu lire tout. J'étais un peu comme ça, un peu radicale, chose que je ne fais plus du tout aujourd'hui. Et c'est vrai que le début des années de lycée, c'était la lecture de Fitzgerald. Et, voilà. Et en fait, j'ai un peu progressé comme ça. Après, avec les études que j'ai faites, qui n'étaient pas des études de littérature, mais plutôt de sciences humaines, j'ai eu accès et j'ai un peu embrassé d'autres lectures qui, pour moi, ont été les plus importantes, finalement. Les historiens, un peu de philosophie, les ethnologues, mais surtout l'histoire. Enfin, j'ai lu aussi pas mal d'essais et des textes qui ont été importants et qui ont été assez formateurs aussi.
Est-ce qu'il a fallu mettre tout ça de côté pour passer au romanesque, ou est-ce
non.
que vous êtes aussi le fruit, alors la littérature, les lectures d'un côté, les voyages, la cartographie aussi, la géographie, les lieux de l'autre, et puis effectivement vos études, je rappelle, philosophie,
oui.
Ethnologie, histoire.
Oui, en plus j'ai fait plutôt une maîtrise d'histoire, mais en géographie. J'ai passé un an aux cartes et plans à l'ABN sur des atlas. Moi, j'ai pas du tout l'espèce d'idée de l'autoconstruction, c'est-à-dire que j'ai une position qui est vraiment à front renversé avec cette position-là, c'est-à-dire que je pense que, et de plus en plus d'ailleurs, je n'ai pu écrire moi-même que parce que j'ai lu. Et aujourd'hui, je vois bien que si je ne lis pas et si je ne suis pas portée par des livres qui m'enthousiasment, et par des écritures aussi, hein, pas seulement par des sujets, mais par des langues, en fait, et même. Surtout par des langues. J'écris moins, j'écris pas. Enfin, voyez, c'est-à-dire que tout se passe ensemble. Et un de mes premiers gestes, enfin un des premiers mouvements quand je commence à revenir vers l'idée d'écrire un livre, c'est d'en rassembler. En fait.
Des livres,
ouais. C'est d'en rassembler.
Faire une petite collection.
Voilà, ouais. Donc je fais une espèce de collection à partir de ma bibliothèque qui n'est pas énorme, mais qui quand même est maintenant est assez riche. Et c'est des livres, en fait, je ne cherche pas à rassembler des livres qui vont évoquer le sujet qui m'intéresse, mais dès lors que moi je vais tisser des échos entre ces livres que je rassemble, j'ai le sentiment que je suis déjà en train de commencer à écrire mon propre livre. Si vous voulez, cette espèce de collection qui précède le moment de l'écriture, la rassembler, c'est me placer dans le désir de ce livre à venir. C'est un moment très important, et cette collection, elle n'est pas si importante, c'est une quinzaine de livres, mais elle ne va pas... Cette liste va rester stable, si vous voulez.
Vous n'allez pas en rajouter
assez peu, assez peu. Et ça agglomère donc des textes qui sont des textes, alors pour le coup, un atlas, des textes parfois très documentaires, des essais, de la poésie, des romans, des textes qui ont des natures de langue extrêmement différentes. Et par exemple, pour Réparer les vivants, il y avait je me souviens qu'il y avait justement Le vent de Claude Simon, qui est un livre de lui que j'aime énormément, qui était tout le temps là, de même que, par exemple, un livre sur la civilisation du cœur, par exemple, d'Alexandre Band, je crois que c'est son nom. Et d'autres livres, j'avais relu aussi pour Réparer les vivants les textes de Jean-Pierre Vernant, donc qui était là, et puis il y avait... voilà, un atlas sur le Havre, un peu ancien, un peu sur cette espèce d'estuaire. Enfin, je voulais un livre. Et si vous voulez, c'est pas une documentation qui va être résorbée par le livre lui-même. Il s'agit pas d'aller capter des éléments que l'on va faire exister dans la narration. C'est plutôt comme se préparer une espèce de nid, de faire son nid dans d'autres livres que les siens, et qui est un nid de désir, et pour moi d'ailleurs très inspirant, j'ai essayé après coup de faire la liste de ces livres pour Corniche Kennedy, mais je l'ai beaucoup fait ensuite pour Naissance d'un pont, Tangente vers l'Est, encore que pour Tangente vers l'Est c'était un petit peu différent, parce que le livre était vraiment issu d'une expérience particulière, et pour Réparer les vivants, si vous voulez, voilà, il y a des poèmes, par exemple les sonnets de Shakespeare, ils étaient là tout le temps. Et alors évidemment, quand je me déplace, il faut que je les emmène tous, c'est un peu ridicule. Et en fait, ça, c'est une pratique qui me... Je sens quand cette collection s'assemble, quand elle gonfle, quand elle se met en place, je sens que le livre vient et que, voilà, que je suis en train de construire une espèce d'habitation pour ce roman.
Restons dans l'habitation, si vous le voulez bien, Maïlys de Kerangal, parce que vous parlez d'un nid, et puis vous vous déplacez avec cette collection de livres pour écrire votre propre livre. Ce nid, il existe. Ce nid, vous l'avez fait vôtre assez tôt. Vous l'appelez la chambre.
Oui.
Vous écrivez dans une chambre où vous allez,
oui,
et qui est distincte de votre maison dans laquelle vous vivez avec votre famille.
Oui, alors ça, c'est vrai que comme le séjour au Colorado, je me demande toujours si qu'est-ce qui se passerait si cet endroit n'existait pas, si j'avais pas pu en bénéficier, c'est voilà.
C'est une chambre de bonne. Hein.
Alors c'est une chambre de bonne qui est un peu le cœur du système, j'allais dire, de l'écriture, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est séparé de mon lieu de vie, celui où je vis avec ma famille. Et c'est un lieu voilà, qui est secret, en fait, où personne ne rentre. Il est, à mon avis, à une distance idéale, c'est-à-dire que c'est une espèce de cellule de travail. Hein, ça, c'est un peu comme un espèce de bureau d'écrivain, très, très banalement. Hein, il y a des livres. Et en même temps, si vous voulez, je vois bien qu'il y a une gestion de ce lieu, notamment qu'est-ce qui entre en termes de livres, de documents, qu'est-ce qui en sort. Enfin, évidemment, depuis presque 15-20 ans que je suis dedans, il y a tout un circuit dans cette chambre. C'est aussi techniquement une chambre où je pourrais vivre, et ça me touche beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas du tout un bureau, justement, c'est un lieu de vie. En fin de livre, il m'arrive d'y revenir. Vous voyez, je peux y dormir, par exemple, ce qui, dans des moments de fin d'écriture, peut être important. C'est-à-dire qu'on sent que... Moi, j'ai des démarrages très tâtonnants, très lents, et des fins très intenses, qui sont comme un peu des sortes de cavalcades, comme ça. Et c'est vrai que m'arrêter peut être un problème. Donc c'est vrai que être dans la continuité, c'est ce qui est le plus important pour moi à ce stade de l'écriture du texte. Et par exemple, pouvoir bénéficier de ce lieu, c'est très important. C'est comme, alors je peux écrire un peu partout, c'est vrai, mais ce lieu-là, il est comme une espèce de de chambre d'écho où je lis, où je me lis, où j'écoute aussi de la musique, où je peux regarder des films. C'est une espèce de chambre forte aussi dans la mesure où personne n'y entre. Et c'est voilà, c'est ce que c'est une espèce de chambre
à soi.
Voilà, c'est un lieu qui est surtout très distinct, qui me permet d'ouvrir cette espèce de monde parallèle qui est la fiction, par exemple le roman, qui pour moi-même nécessite vraiment une espèce de disponibilité particulière qui répond en termes de continuité de temps et aussi d'une forme de continuité spatiale. Donc, et pour ça, cette chambre, je me rends compte qu'elle est très très importante. En dehors d'elle, c'est très long pour moi de me réacclimater à un lieu. Alors, il ne s'agit pas de faire tant de manières et tant de chichi, mais c'est vrai qu'une fois que je suis dans cette chambre, voilà, je sens que c'est aussi un lieu qui a été inventé, créé, habité depuis longtemps pour se faire, pour écrire. C'est pour moi, c'est le lieu des livres. En dehors, je peux évidemment écrire un peu partout, mais c'est pas la même chose.
Vous dites que vous écoutez de la musique aussi dans cette chambre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art qui nourrissent votre écriture, votre littérature ?
Oui, alors même si vous voulez, la musique, ça a été très important dans les premiers textes et notamment dans deux romans, Dans les rapides, qui était justement un roman qui mettait en scène deux femmes, deux icônes du rock et de la pop, hein, Kate Bush et Blondie. Et puis, dans Corniche Kennedy aussi, il y a beaucoup de musique. De toute façon, il y en a dans tous mes livres. Dans Réparer les vivants, il y a toute une playlist, on pourrait dire. Il y a peut-être une petite dizaine de morceaux qui sont comme ça disséminés. C'est très important, la musique. Alors, en même temps, si vous voulez, la musique, elle n'accompagne pas l'écriture, mais elle peut la lancer. Je trouve ça pas possible, en tout cas pour moi, d'écrire sur un fond musical, dans la mesure où ce que j'essaye de trouver moi-même, c'est une musique qui est celle du texte, qui n'est pas une musique qui viendrait, qui ne peut pas se glisser sous une autre, si vous voulez. Ces derniers temps, d'autres choses sont rentrées. Alors le cinéma, je pense que tous les auteurs écrivent aussi avec le cinéma. Alors moi, je vois bien que pour Corniche Kennedy, par exemple, le cinéma a une importance importante. Je le vois même dans le texte, c'est-à-dire dans le vocabulaire qui est mobilisé, où il est question de panorama, de travelling, de contre-champ, de focal, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi une espèce de grammaire du cinéma qui rentre un peu qui vient se tisser dans celle de l'écriture. C'est un texte qui fonctionne sur un régime visuel qui est quand même prééminent pour moi, Corniche Kennedy, et donc la question de la visualisation, des plans et finalement la production des images qui est à l'œuvre dans l'écriture, pour moi, elle convoque en fait complètement le cinéma. Alors là, c'est un film adolescent, enfin c'est une espèce de chronique adolescente, un peu épique, très solaire, un peu, par exemple, ça regarde vers peut-être vers La Fureur de Vivre de Nicolas Ray ou de Pasolini, vous voyez, des films comme ça qui sont très minéraux, très très solaires. Et le cinéma rentre dans mon travail comme un matériau. Alors je vais aussi au cinéma comme ça, mais je vais j'ai comme mais en fait c'est pas un divertissement, ou si vous voulez, c'est pas forcément une curiosité. Quand j'y vais comme ça, souvent je veux dire qu'en réalité j'y vais parce que j'ai l'intuition que ce film va pouvoir sourcer quelque chose, nourrir. Et parfois, si vous voulez, c'est jamais vraiment dans la précision. C'est plutôt que ça nourrit parfois un état psychologique, une intensité.
Est-ce que ça veut dire que vous travaillez tout le temps, Maïs de Kerengal? Tout ce que vous faites, c'est nourrir votre propre écriture?
En fait, je dirais, je vis tout le temps, donc ça marche un peu ensemble. Par exemple, parfois, si vous voulez, j'arrive à pointer des œuvres dont je me dis, ça, c'est vraiment important que je vois ça, je sens que ça regarde vers telle question, tel thème, hein, c'est important. La peinture aussi rentre un peu dans mon travail, c'était un peu timide, mais bon, dans Réparer les vivants, il y avait quand même l'apparition d'un tableau, chose que j'avais jamais osé avant. Non, mais je trouve que tout est dans tout, et en fait, vivant, évidemment, on engrange, on amasse des regards vers d'autres œuvres, des émotions surtout qu'ont suscité d'autres œuvres. C'est pas tant d'être tout le temps au travail, c'est peut-être plutôt d'être tout le temps dans un espèce d'éveil.
Aguets.
Alors après, les moments, c'est vrai que les livres se sont enchaînés depuis quand même une dizaine d'années. Il n'y a vraiment pas eu de temps mort. Hein. C'est même un problème, en fait. Parfois, je me dis, il faut réoxygéner, vous voyez, faire une vie sans écrire aussi. Hein. D'ailleurs, c'est tout à fait possible. Enfin, j'y vois pas d'impossibilité en ce qui me concerne. Mais c'est vrai que les livres se sont enchaînés sans temps mort. Et que quand on commence à rêver à un livre, à le désirer, à l'imaginer, on se transforme un peu en un espèce de... J'avais écrit un texte là-dessus qui s'appelait Le papier tue-mouche, l'écumoire et la centrifugeuse. Je ne sais pas si c'est dans le bon ordre. Une espèce de... Et on est comme une sorte de papier tue-mouche, c'est-à-dire qu'en fait, on est magnétique. Tout ce qui se rapporte de près et parfois même de très, 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 très loin à ce qui vous travaille, fait matériau. Quand j'écrivais Naissance d'un pont, c'était pas seulement les ponts qui m'intéressaient, c'était et les rivières et les frontières. Et vous voyez, c'est comme ça le champ s'élargit. Il y a une espèce de capacité qui se met en place à recueillir et à brasser des éléments qui vont venir organiser un texte.
D'où l'importance du carnet de Moleskine noir ouais, que vous avez comme une boîte noire, comme un laboratoire portatif. Ouais. Est-ce qu'il contient tout ça, cette nécessité d'avoir l'œil un peu partout, toujours,
alors,
l'oreille?
Le carnet, c'est un peu la panoplie, un peu de...
Mais je trouve que vous en avez un.
Ouais, ouais. Donc, alors moi, c'est pas le petit carnet dans la poche sur lequel on note un peu comme ça. C'est quand même tout de suite. Il faut quand même. C'est un grand format, donc tout de suite il faut. Alors le carnet, c'est très très important parce que effectivement, en tout cas les miens, la façon dont j'en use, c'est comme de bandes d'enregistrement et en fait où tout est noté sur un plan immanent. Si vous voulez, il y a pas d'hiérarchie et le carnet, il traverse la vie de l'écriture. Quand il s'arrête, un autre commence. Et si vous voulez, il n'y a pas de moment où je vais hiérarchiser d'une certaine manière. C'est comme une espèce de capteur, même si je rêverais d'avoir des beaux carnets bien écrits, un peu qui me fassent envie comme ça. Bon, les miens, de fait, n'ont pas du tout cette forme-là. C'est des notes un peu impures et parfois, c'est des fragments. C'est des fragments qui, parfois, des embryons de scènes, parfois des listes. Le travail des noms propres, par exemple, ça appelle parfois des listes, parfois même plusieurs listes. Des schémas, l'idée de quand même parfois faire des plans pour visualiser une séquence que en termes narratifs, mon unité, pour moi, c'est quand même la séquence, enfin, on pourrait dire la scène, c'est-à-dire un lieu où il va se passer quelque chose. Et par exemple, dans Réparer les vivants, il y a une scène qui, pour moi, est un peu une scène qui est placée vraiment au cœur du livre entre le coordinateur et les parents. Et en fait, j'avais rien sur quoi m'appuyer en termes de narration. Hein. C'est une salle avec une fenêtre, un petit canapé, un fauteuil, une table basse, etc. Et j'ai eu quand même besoin de la faire exister sur un plan, notamment pour régler ce qui allait se passer sur cette scène qui est importante et qui dure longtemps. Il y a peut-être une trentaine de feuillets. Là, j'ai peu d'appui, en fait. Vous voyez, c'est pas des espaces qui sont très, très larges. On est dans un espace clos, très anodin, très banal, très fonctionnel. Et pour le coup, l'espèce de chorégraphie des corps, comment on se lève, où est-ce qu'on va, où est la fenêtre, comment sont placés les personnages qui sont dans cette scène. J'avais besoin de me les représenter. Du coup, voilà, il y a des petits schémas. Et voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Alors, je les aime pour ça, parce que pour le coup, quand je les feuillette, on est un peu tout le temps on passe un peu pour avoir l'impression de passer du coq à l'âne, surtout que je ne fais jamais que écrire mon livre. J'écris d'autres textes, d'autres choses. C'est Et parfois, c'est aussi des lectures, donc je prends des notes de lecture. Et voilà, c'est une espèce de texte hétéroclite. En même temps, moi, je retisse évidemment le lien qu'il y a entre toutes ces choses.
Mais c'est pour un livre en particulier, chaque carnet a son livre, ou chaque livre a son carnet, plus exactement, ou justement,
alors,
vous mettez tout sur un même
point,
c'est-à-dire que ça peut servir pour
différents... Non, alors, j'ai rarement continué un carnet en commençant un livre. Vous voyez, j'ai souvent quand même, quand je commence vraiment, je commence un carnet. L'autre, à mon avis, hein, l'autre qualité du carnet, c'est la prise de confiance. C'est-à-dire que ça encourage. On se dit quand même qu'il y a, voilà, il y a ces notes, il se passe quelque chose. Si vous voulez, c'est une espèce de reflet, comme une espèce de ligne de crête, hein, du livre qui est en train de se mettre en place et parfois de s'écrire. Et je trouve que pour le coup, il y a cette question quand même de, il faut y croire hein, quand même. Il y a cette question de la croyance dans l'écriture qui est justement pas forcément là où on la place d'emblée, c'est-à-dire la littérature, le sacré, etc. Non, la croyance, c'est parfois simplement y croire, y revenir, augmenter le texte. Qu'il ne vous lâche pas, hein, et parfois il faut se battre, il faut même guerroyer un peu avec lui. Il y a un problème de confiance en soi. Hein. C'est par moments, on a des jours euphoriques où l'on pense que ce livre est merveilleux, et puis des jours beaucoup plus sombres où l'on se dit mais c'est absolument nul. Il y a rien dans ce livre, etc. Et où tout vous quitte. Hein. C'est comme dans la vie en fait. Les carnets, c'est comme un espèce de compagnon qui donne. Ce sont comme des espèces de compagnons qui donnent du courage. Moi, quand je vois, voilà, si le livre dure longtemps, il peut y avoir, je sais pas, 7, 8, 10 carnets comme ça. Je me dis, bon, il y a quand même quelque chose. Ça me donne confiance.
Donc, les 15 livres d'un côté qui forment la petite collection, les carnets de l'autre, c'est un peu
non,
gris-gris.
Non, mais c'est l'idée aussi d'une mise en branle de la confiance en soi. Hein, c'est. Moi, j'ai pas du tout un rapport à l'écriture où je pense que, si vous voulez, tout est là et je m'y mets. Ça fonctionne pas comme ça et je regarde beaucoup vers la littérature et les auteurs ou les textes importants qui vont accompagner le livre. Et ces carnets, même s'ils sont, c'est assez trivial dans l'ensemble, il y a quand même des éclats dedans qui donnent la sinuosité en nombre porté du livre qui va débarquer, j'espère.
Alors, tout n'est pas là, mais vous vous y mettez, ce qui nous emmène à l'écriture proprement dite, Maëlys de Carangal. Tout n'est pas là, mais vous vous y mettez comment ? C'est-à-dire que quand vous vous installez à la table de travail, est-ce que vous attendez que ça tombe, que ça vienne, et puis c'est une forme d'inspiration, et bien à un moment, il y a des jours, des heures, je ne sais pas moi, où tout d'un coup, il y a un flot qui sort, ou est-ce que c'est vraiment un travail constant, de 9h à 18h, dans cette petite chambre de bonne, et puis dans ces journées bien remplies de travail, il y a des moments plus prolifiques que d'autres. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des règles ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des horaires fixes, parce que moi, je n'ai pas une vie qui me permet de travailler n'importe quand. Je vis avec d'autres personnes, donc ça n'a l'air de rien, mais ça conditionne une vie de travail, en fait. Hein. Sur la journée idéale, c'est vrai que c'est une journée de 9h à 18h, où je ne vais pas écrire toute la journée, mais où je vais être un peu concentrée, immergée dans ce livre toute la journée. Alors, évidemment qu'il y a des journées merveilleuses, où l'on a l'impression voilà, que le... Où la phrase ne va pas vous résister. Et puis voilà, il y a des journées terribles où on peut passer justement 4-5 heures sur 4 ou 5 lignes. Vraiment, c'est difficile. En fait, l'important, c'est d'y revenir. Il ne s'agit pas, si vous voulez, d'abattre sa quantité de texte chaque jour. L'important, c'est de conserver le mouvement, de rester dans le mouvement. C'est ce qui est essentiel, c'est de conserver cette... C'est comme un moteur qui ne devrait pas refroidir, en fait, hein, je pourrais le dire comme ça. Après, la cigarette, c'est assez important. C'est un lieu où je fume aussi, cette pièce, alors que je fume assez peu en dehors. Alors, je pourrais citer cette... C'est pas une forme de rituel, mais j'ai le sentiment que, fumant, je me mets au travail, enfin c'est un peu voilà.
Pour ça, vous en faites ce que vous voulez. Non,
il y a des,
pas y a, une incitation.
Non, c'est pas du tout non, pas du tout. Mais de fait, c'est comme ça que ça se passe. Et sinon, j'ai pas du tout de rituel particulier, si ce n'est que j'observe que voilà, il faut une heure et demie pour que et parfois deux pour que je rentre.
Rentrer dedans.
Ouais. C'est-à-dire que c'est jamais. Parce que d'abord, je commence par relire ce que j'ai écrit, si vous voulez, ce qui est en amont dans le fichier. Je commence à revenir un petit peu dessus, donc sur les deux, trois derniers feuillets. Donc il est rare que je les retouche pas. Et ça prend du temps. Alors, s'il y a quelque chose qui me déplaît dans ce que j'ai écrit, ça, donc je vais malheureusement le détruire et le reprendre. Si ça passe à peu près, voilà, en 1h30, 2h, je suis à poste, comme on dit, et je peux avancer le texte. Et moi, j'écris, je fais qu'une version, qui est la version que je vais remettre à l'éditeur. C'est-à-dire que j'ai pas du tout ce travail de premier jet. Vous voyez, je sais pas ce que c'est qu'un premier jet. J'écris une fois. Alors, ça veut pas dire que, si vous voulez, je ne reviens jamais sur ce qui a été écrit. Le relisant, je peux changer la ponctuation, je regarde les répétitions, je regarde un peu comment, voilà, l'espèce de rythme, le tombé, en fait, du texte, hein, comment ça tombe, etc. Mais pour moi, le travail essentiel, c'est pas de décliner une histoire, c'est quand même de me placer dans la forme. Et donc, c'est assez lent, mais c'est comme ça que le texte s'écrit. Si vous voulez, j'ai pas du tout l'idée du brouillon. Et d'ailleurs, je pourrais pas le faire deux fois, parce que j'ai besoin que ce soit, qu'il n'y ait pas une fois pour de faux ou pour du beurre ou une fausse foi. Il faut que ce soit une fois la première et, si possible, quasiment la définitive. Alors, évidemment, après, il y a des retouches. Parfois, il y a un retravail. Où je viens enchâsser, c'est surtout des choses que je veux développer, par exemple. Mais voilà, sinon, c'est en une fois. Alors, c'est un travail, de fait, assez lent et qui se fait beaucoup à l'oreille.
Et que vous lisez à voix haute.
Oui, alors, je lis à voix haute, mais ça, c'est comme pour les carnets. J'ai longtemps pensé que lire à voix haute, c'était vérifier, stabiliser la ponctuation, le rythme, cadencer le texte, l'entendre pour le stabiliser dans la manière dont il va s'entendre. C'était vraiment l'idée d'écrire à l'oreille. Plus je le fais, et en fait, plus je me rends compte qu'il s'agit complètement d'autre chose. C'est que je crois que je le lis pour qu'il existe, en fait.
Encore une histoire de confiance.
Tant que je ne l'ai pas lu, finalement, il n'existe pas. Le dire, c'est comme le faire naître. Et c'est une façon d'inscrire la lecture dans l'écriture. Donc, si vous voulez, je le lis et finalement, il existe. Et il existe déjà pour moi-même. Je l'ai entendu. J'en ai une espèce d'empreinte sonore. J'ai l'impression de le faire naître, de l'initialiser quand je le lis. Et que de cette manière-là, effectivement, je peux y croire un peu.
Est-ce que de la même façon que vous avez constaté une méthode de travail qui est régulière, longue séquence de travail, dans un lieu souvent précis et le même, avec des horaires qui sont quotidiens, qui sont réguliers, les carnets et la lecture à haute voix pour schématiser ce que vous nous avez dit. Est-ce que de la même façon, vous avez constaté des façons d'écrire qui sont les mêmes? C'est-à-dire, est-ce que vous faites un prédécoupage? Est-ce que vous avez un plan établi dans la tête? Est-ce que c'est au fil de la plume? Est-ce que vous connaissez déjà la structure du livre? Est-ce que vous commencez toujours par le commencement? Est-ce que vous connaissez la fin avant même d'avoir commencé, etc., etc.
Ça n'est pas la même. Ça ne se passe pas de la même manière pour chaque livre. Les trois derniers livres, Naissance d'un pont, Tangente vers l'Est et Réparer les vivants, les trois derniers romans, c'était des livres, si vous voulez, que j'ai écrits en connaissant la fin. Et ça, pour le coup, je trouve que ça change tout. Je sais où la fiction doit m'emmener, me porter. C'est-à-dire, je sais ce qu'elle doit atteindre, je sais ce qu'elle doit prendre en charge. Pour le pont, il fallait que le pont atteigne l'autre rive du fleuve. Donc, le livre, c'était cette trajectoire-là. Pour Tangente vers l'Est, Alyosha doit s'échapper et doit atteindre Vladivostok. Donc, il y a le parcours Novosibirsk de Vladivostok qui va être pris en charge par le roman. Et Réparer les vivants, il faut que le cœur de Simon rallie le corps de cette traductrice Claire. Et ça, je le sais avant de commencer. Du coup, si vous voulez, Le livre est une, c'est des livres-lignes, ça. C'est des livres qui sont comme des flèches, qui sont comme des trajectoires. C'est des livres où l'on sait ce que l'on doit atteindre et rétroactivement tout ce que la narration doit avoir pris en charge pour que l'on y soit à la dernière page. Donc c'est plutôt des livres de processus aussi. Alors c'est des constructions qui sont assez simples puisque on suit le processus de la construction d'un pont, les étapes, les gares qui scandent la ligne du Transsibérien, ou le processus de la transplantation d'un cœur, hein, avec peut-être un démarrage plus développé avec cette histoire de vague, mais très vite on est dans ce processus. Alors c'est des livres que je commence par le commencement, que j'écris dans l'ordre où il se présente aujourd'hui et où le lecteur les lit. Ce qui, en fait, me fait que je n'en sais pas plus que le lecteur aussi. C'est-à-dire, j'avance finalement en même temps que lui lira. Je ne possède pas de bille par-devers moi que lui ignore au moment de lire. On est ensemble et j'aime beaucoup ça, cette idée d'écrire dans un temps qui est synchrone à celui de la lecture. Corniche Kennedy, c'était un livre différent, c'est pas un livre de trajectoire, c'est un livre qui est plutôt un livre de plateau, avec un lieu qui va catalyser tout le roman, en fait, hein. Non seulement l'action, mais finalement les personnages vont naître de ce milieu, et finalement les énergies qui activent ce milieu sont celles qui vont conduire la narration. Alors c'est des romans qui sont plus difficiles du point de vue de la construction, hein, parce que les choses sont moins simples, on suit moins une ligne, on est plus dans la formation d'un monde, d'un plateau, hein. Après, c'est des livres qui ont une autre richesse, j'allais dire, en termes narratifs, puisque justement, c'est des livres où il peut se passer des choses, il y a de l'inattendu, etc.
Mais ça, vous ne savez pas avant que vous décidez d'écrire que ce livre sera un livre trajectoire ou ce livre sera un livre plateau ?
Je le sais.
Ça vient comme ça ?
Je le sais quand même.
Vous savez.
Ouais, je le sais quand même. Si je me dis, voilà, je vais écrire un roman qui sera le roman d'une transplantation cardiaque, je sais que. Mais si vous voulez, je n'ai pas. J'ai le point de départ et j'ai le point d'arrivée. Entre les deux, il y a une espèce de colonne vertébrale qui est souvent le processus lui-même, le processus technique. Et puis, tout le reste, si vous voulez, le roman, notamment la question des scènes, des personnages, des situations, c'est des choses qui viennent au fil de l'écriture. Tout se passe dans le présent de l'écriture. Si vous voulez, c'est pas parce qu'on a l'idée qu'on va écrire un livre sur qui va raconter la construction d'un pont. On peut avoir que ça, donc on a quand même l'idée. Et moi, j'avais d'ailleurs l'idée de cette espèce de courbe. Je la voyais, mais j'avais que ça. Donc, si vous voulez, tout se fait dans le présent de l'écriture. Il y a peu de choses qui sont décidées d'avance. Mais alors, il se passe quelque chose de très intéressant quand on commence à réfléchir et à l'usage et le pistage et l'usage de la documentation. Vous voyez, où là, cela évidemment intervient dans la narration de manière tangible et pour moi extrêmement passionnante car extrêmement poétique.
La documentation ?
Oui.
Et la traduction de l'idée, ou plutôt comment vous arrivez à nourrir l'idée au départ.
Ouais.
Il y a un travail d'enquête, par exemple.
Alors, je fais jamais de choses avant. C'est-à-dire que dès que je me dis, je vais travailler sur une transplantation cardiaque, par exemple, je suis au travail et tout commence là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, de plan, de scénario d'avance. Tout va se passer dans le temps de l'écriture, mais évidemment, ne serait-ce que ce processus, je dois le connaître. Donc, très concrètement, par exemple, dans ce dernier livre, la vague elle-même était déjà un enjeu documentaire, parce que cette vague, c'est pas n'importe quelle vague, c'est aussi une vague qui fait signe à beaucoup d'autres vagues, et je le découvre au moment où je m'intéresse à elle. Pour des raisons privées, je connais le monde des surfeurs. J'ai des appuis dans ce monde-là, voyez. Mais j'avais jamais pensé que cette vague qui serait par exemple celle qui pourrait lever et faire déferler la narration. J'avais jamais pensé que la traduction de vague, c'était en italien par exemple, c'était l'onda, et qu'il y a quand même l'onde, et que l'onde, c'est l'onde de choc d'un accident, c'est l'onde qui travaille les voies. Les voix sont des ondes, l'onde P qui active les battements du cœur humain, ça s'appelle aussi une onde. C'est le pli de Deleuze, c'est-à-dire c'est tout ce qui a un envers un endroit, c'est une force. Enfin, et tout d'un coup, on est d'emblée, il y a cette vague, et puis finalement le roman, il va commencer à prendre corps comme ça, et puis pour moi, c'est ça à écrire en fait. C'est-à-dire que la documentation, elle est jamais, elle m'intéresse pas pour elle-même, et finalement, elle m'intéresse assez peu pour les effets de réel qu'elle pourrait me donner, quoique ces effets, ils comptent, parce que j'écris des romans qui sont en phase avec le monde contemporain et qu'il y a un enjeu de réalisme que je ne rejette pas du tout. Mais si vous voulez, ça serait une espèce d'utilisation, un usage mineur pour moi, enfin un usage mineur de la documentation, un usage parce que c'est la moindre des choses, si vous voulez. L'usage majeur, c'est que cette documentation, elle va activer ce qu'on appelle l'imagination, et que c'est elle qui l'active, et c'est elle qui va produire l'imagination du texte, et même d'une manière plus globale son imaginaire. Et
ça suppose donc quand même de sortir de sa chambre là.
Oui.
C'est-à-dire que ça suppose, quand vous écrivez Réparer les vivants, d'aller à l'hôpital.
Ouais.
Ça suppose, quand vous écrivez un livre sur le parcours d'un chef cuisinier, d'aller voir ce que c'est. Quand vous écrivez Corniche Kennedy, je ne sais pas si vous êtes allé à Marseille réellement, mais en tous les cas, de vous approcher d'un... Parce que c'est du vocabulaire aussi, c'est de la langue, c'est la langue des ados. Donc
mais c'est ce qu'on...
Ça ne vient pas dans sa chambre, ça.
Il faut d'abord
aller y voir, le transformer.
Oui, oui. Mais... Évidemment qu'il y a l'idée d'aller voir une transplantation cardiaque, je l'ai fait pour deux raisons. D'abord pour ma vie. Je savais que j'étais de taille à assister. Enfin, vous voyez que j'allais pas être, j'allais pas m'effondrer, etc. Donc, en fait, c'était aussi que le chirurgien que j'avais pu rencontrer, me l'a proposé, et je l'ai fait parce qu'il y a une chose qui s'appelle la curiosité, j'avais envie de la voir. Et puis, la deuxième raison, c'était aussi pour peut-être capter certains détails, et notamment les détails atmosphériques qui sont beaucoup plus importants que parfois un détail hyper réaliste. Et puis surtout, entendre comment ça parle, et voir comment ça bouge, et entendre comment ça parle dans ces lieux-là, par exemple. Ça, c'était très important. Ce qui m'avait frappé pour Réparer les vivants, c'était la trivialité des discussions, alors que on est trivialité au sens où, si vous voulez, il n'y a pas de gravité et de solennité dans le bloc. On peut justement parler d'un résultat sportif ou plaisanter, alors qu'il y avait cette opération, cette transplantation, ce cœur qui allait être greffé sur cet homme. Des choses comme ça. Alors ça pour moi, c'est très important. Mais si vous voulez, ce que je voulais dire, c'est que quand on parle de ce qui est avant, ce qui existe avant, est-ce qu'il y a un scénario, est-ce que les choses préexistent à l'écriture ? Rien ne préexiste à l'écriture. Je vois même pas ce qui pourrait exister, hormis une espèce de phrase qui serait je voudrais travailler sur un roman qui raconterait une transplantation cardiaque, par exemple, et on pourrait s'en tenir là. Mais en revanche, ce que cette petite phrase, elle active comme recherche, etc., fait rentrer, si vous voulez, dans la effectivement des déplacements à l'agence de la biomédecine, à l'hôpital, des entretiens aussi, enfin notamment avec une personne. Moi, j'ai surtout parlé avec une personne pour ce livre-là, qui était un coordinateur de prélèvement d'organes et de tissus. Pour moi, la question de l'imagination, elle est première, c'est-à-dire que j'ai la conviction, et ça je l'ai découvert en quelque sorte quand j'écrivais Naissance d'un pont, qu'il peut y avoir de roman et donc de vie dans le texte que parce que il y a de la documentation. Alors parce qu'on va moissonner un langage, comme vous le disiez, c'est-à-dire que c'est fou ce que l'on engrange comme vocabulaire, comme lexique, un peu dans ces espèces de pérégrinations, mais aussi parce que l'imagination, ça n'a rien à voir avec une espèce de capacité à inventer des histoires. Hein. C'est pas ça du tout, une espèce de fantaisie. Pour moi, c'est un travail d'ailleurs qui consiste à mettre les choses en rapport. Et le livre, en fait, en tout cas, ce que j'écrive, c'est une succession de choses qui sont mises en rapport les unes avec les autres. Pour moi, finalement, le travail d'imagination, c'est un travail qui n'est pas du tout, vous voyez, oh, tu as beaucoup d'imagination. L'idée de raconter des trucs, un peu des péripéties, etc., c'est beaucoup plus la façon de créer des échos, construire des analogies, mettre les choses en rapport organisé. Et c'est pour ça que conserver, tout à l'heure je parlais de mouvement, mais conserver quelque chose d'organique dans l'écriture, c'est, pour moi c'est essentiel, et en aucun cas la fiction ne peut exister comme prétexte à la dilution d'un matériau documentaire que l'on aurait patiemment et parfois même très honnêtement rassemblé avant. C'est pas du tout écrire, c'est pas du tout. Enfin, pour moi, ça peut pas du tout se passer comme ça. C'est plutôt, je suis sur le seuil d'une sensation, d'une émotion, parfois d'une idée. Et puis, se met en place une investigation, parfois une enquête, qui va voir des choses, faire voir des éléments, et c'est, si vous voulez, réellement, hein, c'est le roman qui va inventer son propre matériau documentaire. C'est le roman qui le crée. C'est-à-dire que, voyant ça, on va aller voir ça, et ça fait penser à ça, et on va du coup revoir ce film-là, qui possédait cet acteur-là dont le visage vous revient. Et en fait, le livre, il va se mettre en place comme ça par une espèce d'aptitude à créer ces rapports entre les choses. C'est pour ça que la phrase de Baudelaire qui est que l'imagination, c'est une puissance de connaissance, c'est quelque chose que je crois complètement vrai. C'est-à-dire, il y a dans la documentation l'idée de connaître, dans les investigations l'idée d'aller vraiment quérir du savoir. Il y a aussi l'idée qu'une fiction peut résorber un savoir. Au final, quoi qu'on pense d'un livre, de ce livre-là, on sait comment se passe une transplantation cardiaque, de manière juste. Mais si vous voulez, pour moi, c'est pas ça qui fait que le livre va exister vraiment. Ce qui va le faire exister vraiment, c'est toute cette espèce de gigantesque réseau qu'il va instaurer, qui est une sorte de paysage, qui est aussi une sorte qui contient la fiction et qui l'a fait vivre surtout.
Maïs de Kerangal, on arrive au terme de cette masterclass et je voudrais vous poser une dernière question sur l'après, puisqu'on a parlé de l'avant, on a parlé du pendant. Quel est votre rapport à l'après, à la sortie du livre, en particulier si on prend l'exemple de Réparer les vivants et de son formidable succès, le fait que certains livres, dont celui-là, soient adaptés pour la scène, pour le cinéma? Vous faites quoi? Vous vivez comment? Vous cherchez à en savoir beaucoup? Vous accompagnez ça? Ça vous fait plaisir? Ça vous échappe? Comment vivez-vous?
Alors, ça me fait plaisir d'accompagner le livre dans les premiers temps. Alors, c'est pas d'ailleurs qu'un geste promotionnel, hein, c'est aussi que... Il y a une notion d'éclaircissement, c'est-à-dire que ces moments de présentation publique du livre sont aussi un moment où moi je dois donc stabiliser une sorte de parole sur ce livre, et donc je dois le connaître en fait. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que C'est extrêmement instable, un livre, en fait. Hein. On se dit, voilà, c'est imprimé, c'est un objet de commerce, voilà, il y a quelque chose d'un peu d'indiscutable, ça se... Et il y a le code-barre derrière et tout, mais finalement, même la perception qu'on en a, elle est extrêmement mouvante. Enfin, pour réparer les vivants, c'est vrai que j'ai eu le sentiment d'avoir pas du tout parlé de ce livre au début comme à la fin, parce que finalement, à la fin, comme j'en parle encore parfois aujourd'hui, c'est-à-dire avec finalement, je le connais bien moins. Et puis les majeurs sont pas du tout placés au même endroit. Alors voilà, il y a comme ça un parcours avec le livre qui est à la fois pour l'éclaircir et puis aussi qui est pour rencontrer les lecteurs et parfois écouter ce qu'ils vont eux en dire, qui est quelque chose qui m'importe vraiment. La question des adaptations. C'est comme celle des traductions et finalement c'est comme celle de la lecture, hein. C'est-à-dire que l'adaptation elle est émouvante, elle peut vous toucher d'abord parce que elle salue, elle désigne la capacité d'un texte à se reconfigurer ailleurs dans un autre médium, le cinéma, dans un autre vocabulaire, dans un autre lexique le théâtre, le cinéma en l'occurrence, ça je trouve que c'est assez merveilleux. Après, le corollaire de ça, c'est que votre travail ne vous appartient pas du tout, plus du tout, que ce soit il est au lecteur, il est à ceux qui l'adaptent et il est à ceux qui le lisent. C'est pas pour ça, si vous voulez, qu'il y a une forme d'indifférence, c'est terminé, je lâche tout, etc. J'aime assez avoir des rapports avec les lecteurs autant qu'avec les artistes qu'on puisse intéresser à ce que j'avais écrit. Mais c'est vrai que ça n'est plus à moi. Mais ça rappelle quand même toujours cette histoire incroyable, c'est que écrire, ça se fait à deux. C'est-à-dire même si on est seul pour le faire et que la solitude est pour moi, et le secret, la notion de secret, de solitude, tout ça, pour moi quelque chose d'extrêmement excitant, extrêmement fort dans l'écriture. Ça se fait à deux parce qu'il y a ce geste d'écrire induit quand même la présence de l'autre et que malgré tout, si le lecteur n'a pas de visage, enfin n'a pas d'identité, qu'on n'y pense pas même quand on écrit, finalement, écrire induit quand même une forme de présence. Et ce moment où le livre est publié, c'est le moment où l'on peut rencontrer cette présence. D'une certaine manière.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.
C'était la masterclass de Maïlys de Kerangal avec Caroline Brouet. Attaché de production Mathieu Maroudin, coordination Arnaud Laporte, réalisation Olivier Guérin.